On a fait ce matin un voyage dans le temps, un voyage agréable d'ailleurs, hein. On est resté à Nantes, mais à travers les siècles. Et là, donc, on va faire un arrêt, donc, maintenant, sur un lieu de Nantes, un lieu où, en fait, se mêlent de façon harmonieuse l'art, la culture et la foi. Je vais laisser la parole à deux personnes, donc Yves et Clotilde. Ils animent ce lieu à Nantes et en fait ce sont eux les mieux à même de vous expliquer ce qu'il en est, les objectifs du lieu, ce qui y est vécu. Donc je vais laisser la parole à Yves.
Bon, merci Philippe, bonjour à tous. Merci de nous accueillir, Clotilde, qui est la directrice du Passage Sainte-Croix, et moi qui suis le président de l'association qui fait vivre le lieu. Nous sommes ravis de l'opportunité qui nous est donnée, grâce aux amis de la vie, de venir vous parler un petit peu de ce que nous considérons être un beau projet. Donc, on s'est réparti la tâche, Clotilde et moi, de la façon suivante. Je vais en quelques mots vous relater ou vous retracer un petit peu l'origine du passage Sainte-Croix, comment est-ce que l'idée est venue, comment elle s'est concrétisée, et puis je vous dirai quelques mots de la mission que nous a confiée notre évêque, puisqu'en fait le passage Sainte-Croix est un lieu qui appartient au diocèse. Et l'association qui le fait vivre, eh bien, travaille en étroite collaboration avec notre évêque. Et puis, Clotilde vous présentera un peu le lieu avec quelques vues, et vous donnera un certain nombre d'indications beaucoup plus pratiques sur, finalement, ce qui se passe jour après jour au passage Sainte-Croix. Alors, comme je vous le disais à l'instant, je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur la genèse de ce projet. L'origine remonte à 2003. En 2003, c'est l'évêque de l'époque, Monseigneur Soubrier, qui, dans le cadre du remodelage paroissial, du regroupement des paroisses, a pris l'initiative d'engager une réflexion dans la perspective de l'ouverture de nouveaux pôles de vie ecclésiale, l'objectif étant de faire en sorte que l'Église soit vue et vécue autrement et ailleurs que dans les églises. Donc c'est ça un petit peu le point de départ de la réflexion, rendre l'Église visible en dehors des églises. L'idée a donc pris corps avec cet objectif. L'idée a pris corps de créer un espace culturel chrétien, où l'Église s'exposerait à la curiosité et au questionnement de nos contemporains. C'était donc en 2003-2004 que, disons, la gestation du projet est intervenue. Et finalement, l'intuition de notre évêque de l'époque n'était qu'une anticipation sur ce que disait très précisément le pape Benoît XVI lorsqu'il est venu aux Bernardins en 2008. Et je me permets de vous citer un bref extrait de ce que disait Benoît XVI. Je cite: je pense que l'Église devrait aujourd'hui ouvrir une sorte de parvis des gentils où les hommes puissent, d'une certaine manière, s'accrocher à Dieu sans le connaître et avant d'avoir trouvé l'accès à son mystère au service duquel se trouve la vie interne de l'Église. Et la suite me paraît très importante. Au dialogue avec les religions doit aujourd'hui s'ajouter le dialogue avec ceux pour qui la religion est une chose étrangère, pour qui Dieu est inconnu et qui cependant ne voudrait pas rester simplement sans Dieu, mais l'approchait au moins comme inconnu. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée. Alors, une fois que l'idée commençait à prendre corps, il a fallu trouver un lieu. Alors, comme nombre d'entre vous ne sont pas nantais, je ne vais pas m'attarder sur les différents lieux qui étaient en compétition ou qui en tout cas étaient envisagés, d'autant que le choix s'est très vite arrêté sur un ensemble immobilier qui appartenait au diocèse, situé, alors là, pour les Nantais, c'est inutile de le dire, parce que tout le monde connaît la Nantes pour sa Sainte-Croix, situé entre l'église Sainte-Croix et la place du Bouffay. Cet ensemble était dans un état de dégradation particulièrement avancé, et de toute façon, il était nécessaire pour le diocèse, ne serait-ce que pour éviter des risques pour les passants, il était nécessaire de faire des travaux de confortation. Alors en réalité, compte tenu du projet, le diocèse ne s'est pas contenté, loin s'en faut, de quelques travaux de confortation. Il y a eu une splendide restauration qui a été faite de cet ensemble. Ensemble constitué, je le décris rapidement, mais vous allez voir des photos tout à l'heure. Et quand on arrive à partir de la place Sainte-Croix, il y a d'abord un jardin de 400 mètres carrés, puis il y a un premier bâtiment que nous appelons le prieuré, puisque en fait le passage Sainte-Croix est implanté sur l'emplacement d'un ancien prieuré bénédictin. Ce sont des moines de Marmoutier, près de Tours, qui sont venus au XIIe siècle s'installer à cet endroit-là et qui y sont restés jusqu'en 1620. Donc, un jardin, l'ancien prieuré, un patio une cour pavée de, je regarde, 123 mètres carrés exactement, et puis le long de la rue qui se trouve derrière, un bâtiment à arcades. Et donc, finalement, l'idée a été de relier ces différents bâtiments à partir du jardin, le prieuré, le patio, le bâtiment derrière pour en faire un passage. Et l'idée de passage, ça correspondait non seulement, disons, à la réalité physique, si j'ose dire, à cette différence près que le passage Sainte-Croix, c'est pas comme le passage Pommeray, pour ceux qui connaissent Nantes, à savoir que bon, le passage Pommeray, vous circulez entre des linéaires commerciaux, alors que là, l'idée, c'est de proposer aux passants des activités artistiques, culturelles, l'idée étant de retenir le passant et puis même de l'attirer. Donc, cet ensemble était complètement dégradé. L'idée, comme je le disais à l'instant, ça a été d'en faire un passage. Et un passage à plusieurs titres. Un passage d'abord au sens habituel du mot, c'est-à-dire un endroit où on chemine, un endroit où on déambule. L'idée étant effectivement, en plein cœur de ville, de créer un lieu de repos, d'apaisement, où on peut souffler, le jardin apportant du reste sa contribution à ce lieu de respiration que constitue le passage Sainte-Croix. Donc, passage de déambulation, mais aussi un passage de témoin. Passage de témoin entre, disons, le patrimoine architectural, le patrimoine ancien architectural de la ville, et puis le cœur de la métropole, le cœur de la métropole du XXIe siècle, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu Nantes, si les organisateurs de cette université vous laissent un petit peu de temps, et si à 11h le soir vous n'êtes pas encore trop fatigué pour aller déambuler, vous pourrez aller situer le lieu, mais c'est d'ailleurs, je crois, sans faire de pub, c'est une des propositions qui vous est faite pour un jour prochain. Donc, l'idée, c'est donc doublement un passage, passage au centre, lieu de déambulation, mais passage aussi, passage de témoin entre, disons, la cité patrimoniale et le cœur de la métropole du XXIe siècle. Alors les travaux, un tout petit mot sur les travaux, je vous dis là, la réflexion a commencé en 2003, le premier coup de pioche, enfin quand je dis coup de pioche, c'est excessif, puisqu'il s'agit de réhabilitation. Les travaux de réhabilitation ont commencé en décembre 2008. Monseigneur Soubrier a posé symboliquement la première pierre en juin 2009. L'ouverture a eu lieu en 2010, très précisément le 25 novembre 2010, et l'inauguration le 23 mai 2011. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur le décalage dans le temps entre l'ouverture et l'inauguration. Je vous parlais du jardin tout à l'heure. Le jardin occupe, disons, un rôle important. C'est véritablement un élément du passage Sainte-Croix. Du reste, le jardin au départ a été dessiné avec la réminiscence de la destination originelle du lieu, puisque c'était, je vous le disais tout à l'heure, un prieuré bénédictin, et on a reconstitué dans le jardin quelque chose qui ressemble à un cloître. Et ce jardin, je le dis aussi, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont, il appartient au diocèse, mais un accord a été passé avec la ville de Nantes, accord au terme duquel la ville de Nantes a aménagé, a pris en charge l'aménagement du jardin au départ, procède deux fois par an au changement des plantations, en concertation avec nous, l'idée étant de faire en sorte que la végétation, les plantations soient en harmonie avec notre thématique d'année. Petite vous parlera tout à l'heure de la façon dont on conçoit notre programmation à partir d'une thématique annuelle, et donc on a les meilleurs rapports avec le service des espaces verts et de l'environnement de la ville de Nantes, avec laquelle tous les ans se conçoit les plantations qui figurent dans le jardin. Et par ailleurs, la ville de Nantes, en contrepartie du fait qu'on a accepté l'ouverture au public de ce jardin, prend en charge, si on le souhaite, au moment où ça nous convient, la fermeture de la grille qui se trouve à l'entrée. Donc, si l'inauguration a été décalée par rapport à l'ouverture, et j'y reviens, c'est qu'en fait, le député maire de Nantes de l'époque, Jean-Marc Ayrault, souhaitait, on le comprend, que l'inauguration ait lieu une fois que le jardin aurait été aménagé. Or, les plantations, ça ne se fait pas à n'importe quel moment de l'année, ce qui fait qu'il a fallu attendre les plantations de février pour l'inauguration au mois de mai. Alors, je vous en disais un mot tout à l'heure, donc un lieu, un projet, mais encore faut-il une structure pour faire vivre le projet dans le lieu. Et c'est la raison pour laquelle, en 2007, à l'initiative donc de notre évêque, une association s'est créée, le rôle de l'association étant justement de concevoir la programmation, d'animer le lieu. Alors, l'association, il y a une équipe de salariés, dont Clotilde et la directrice, et puis Dieu merci, et pour le passage et pour l'équipe salariée et sa directrice, un nombre important de bénévoles. Il y a une bonne trentaine de bénévoles, je vais pas dire taillable et corvéable à merci parce que ce serait pas très aimable, mais une bonne trentaine de bénévoles d'une disponibilité absolument extraordinaire. Je vous le disais tout à l'heure, on a ouvert en 2010, donc ça fait plus de 5 ans de fonctionnement complet, et il n'y a pas de découragement, et on voit même avec grand plaisir de nouveaux bénévoles qui, disons, enthousiasmés par le projet, acceptent de venir passer du temps au passage Sainte-Croix. Le jour de l'inauguration, Monseigneur Zahm définissait ainsi les trois objectifs poursuivis par le diocèse. Alors là encore, nouvelle citation, parce que ça me paraît important que vous ayez à l'esprit présent finalement les objectifs qu'a eu notre évêque lorsque, disons, il a pris en bras le corps ce projet. Du reste, c'était Monseigneur Soubrier, pour ne rien vous cacher, quand Monseigneur Zahm est arrivé, on se disait, est-ce qu'il va accepter de chausser les chaussures ou les pantoufles de son prédécesseur. Donc, on était un petit peu inquiet. Quand il nous a dit, si j'étais resté à Beauvais, j'aurais voulu faire la même chose. Donc, on s'est dit, c'est bon pour nous. Et donc, effectivement, il s'est totalement investi dans le projet et il le soutient autant qu'il le peut. Donc, voilà ce que disait Mgr Jam le jour de l'inauguration. Je cite, « Ouvrir à la curiosité du passant ce que la tradition chrétienne porte comme un trésor passé et présent, trésor autant intellectuel qu'artistique. » Deuxièmement, « Proposer un dialogue avec le milieu culturel et le monde artistique que l'Église a pu laisser se distendre trop longtemps. » Troisièmement, « Exprimer une autre forme de la présence de l'Église dans la société. » Donc, ce qui ressort très nettement, c'est que le passage Sainte-Croix doit avoir pour ambition, parce que c'est sa mission, d'être un lieu ouvert, et d'être un lieu ouvert à tous. C'est le défi auquel doit répondre notre programmation. Et donc, Clotilde vous en donnera des illustrations tout à l'heure. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que la difficulté dans la conception de la programmation, c'est de susciter l'intérêt des non-chrétiens, puisque c'est un peu l'objectif, le dialogue, comme disait Benoît XVI, le dialogue avec ceux qui sont éloignés de l'Église, comme dit notre pape actuel, avec les périphéries. Donc il faut à la fois concevoir une programmation qui suscite l'intérêt des non-chrétiens, mais qui, dans le même temps, ne provoque pas trop de réserves ou de critiques de la part de ceux qui sont beaucoup plus investis, disons, au quotidien, dans les missions de l'Église. Pour reprendre une formule qu'utilise souvent Mgr Jam, il y a une ligne de crête. Il y a une ligne de crête qui est relativement difficile à tenir, pas tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, pour terminer, ce que je voudrais simplement vous dire, à grand trait, c'est que cette ouverture, elle implique une très large diversité des propositions que l'on fait, que ce soit dans leur nature, que ce soit dans leur contenu. Et cette ouverture implique aussi, parce que c'est une grande richesse, elle implique aussi la mise en place de partenariats. Alors, simplement quelques grandes lignes, c'est vraiment, j'en ai pour une minute. Diversité tout d'abord des propositions dans leur nature. Diversité des propositions dans leur nature, il suffit de voir ce que l'on offre au public, ce que l'on essaie d'offrir. Expositions, conférences, spectacles vivants, midi de Sainte-Croix, dans des domaines extrêmement variés, littérature, musique, poésie, sculpture, peinture, sans oublier bien sûr, et Clotilde en dira un mot, les ateliers jeunes publics. Donc, diversité des propositions dans leur nature, diversité des propositions dans leur contenu. Et là, on trouve la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, c'est la nécessité d'être ouvert, mais d'être aussi, pour reprendre là encore une formule de Mgr Jam, d'être clairement d'église. Donc, à la fois ouvert, clairement d'église, c'est là un petit peu la corde raide, pour parler de la ligne de crête, notamment, et on a souvent d'amicaux échanges entre nous sur l'équilibre à trouver entre art contemporain et, disons, œuvre appartenant plus au patrimoine classique. Il en faut pour tous les goûts sont dans la nature, la difficulté c'est de trouver l'équilibre. Ouverture implique aussi des partenariats, actuellement le passage Sainte-Croix fonctionne entre guillemets dans le circuit du voyage à Nantes, voilà un partenaire qui pour nous est un partenaire important. Autre partenaire, René Martin, que vous verrez prochainement, notamment au moment de la folle journée, on a régulièrement des concerts qui sont décentralisés au passage Sainte-Croix grâce à René. partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, enfin, on a des top partenariats, ce qui, d'une part, répond à notre souci d'ouverture, à notre souci de dialogue, ce qui contribue, il faut le dire aussi, à nous ancrer dans le paysage culturel nantais, et puis ce qui aussi est une richesse, dans la mesure où, grâce à ces partenariats, on a la possibilité de faire des propositions qui nous seraient totalement, disons, inimaginables. Sans cela, pour citer un dernier exemple, là je me tais, c'est Ariane Pierre qui est un ancien avocat qui dit « je vais être bref et je me tais ». On a eu la chance à Noël il y a quelques années d'avoir trois tableaux de Georges de la Tour. Inutile de vous dire que sans le partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, on n'aurait jamais pu proposer au public au moment de Noël ces trois toiles de Georges de la Tour. Voilà, j'étais beaucoup trop long. Ça va être beaucoup plus vivant avec Clotilde. D'abord, il va y avoir des images, et puis vous aurez une idée beaucoup plus concrète de ce que l'on fait quotidiennement. J'ai essayé simplement de vous dire un petit peu ce qu'on essayait de faire, quels étaient nos objectifs, mais maintenant vous allez essayer de voir, enfin de vous rendre compte un petit peu de ce qu'on fait concrètement au quotidien. Voilà, merci pour votre attention.
On te remercie.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que dans un journal, on parle de ligne éditoriale. Effectivement, Yves a parlé plusieurs fois du mot ligne de crête. Finalement, nous aussi, on a une ligne éditoriale au passage Sainte-Croix. Elle tient peut-être dans les quelques mots que vous avez devant vous. Un passage dédié aux arts, au questionnement existentiel de l'homme, au dialogue entre les cultures religieuses et profanes. Alors, c'est un beau programme qui, effectivement, se décline maintenant depuis 6 ans. Dans un lieu magique. Magique, je vais vous en parler un petit peu, et puis je crois que vous avez fait un saut dans l'histoire un petit peu ce matin, et on va y revenir, mais ici dans l'histoire médiévale. Le passage, pour le situer dans la ville, il s'inscrit déjà dans un territoire. Ce que vous avez devant vous, c'est à l'époque où Nantes avait encore son fleuve, la Loire, qui la traversait. Et ses affluents. Et le passage Sainte-Croix, alors j'ai dit que j'allais me promener, mais peut-être que si je manipule la souris, vous voyez Sainte-Croix en fait sur le plan, peut-être. Mais hein? Oui, j'avais dit que je me promènerais pas, et puis finalement je me promène quand même. Donc, effectivement, Sainte-Croix est en bas de cette enceinte. Cette enceinte, c'est l'enceinte gallo-romaine. Et en fait, Nantes a été énormément détruite par les invasions normandes. Et donc, à la fin du XIe siècle, il y avait une déshérence de la présence, notamment des moines et des moniales, une déshérence de la présence religieuse dans l'enceinte de la ville. C'est pourquoi plusieurs familles qui appartenaient des terrains dans l'enceinte de la ville ont voulu redorer un petit peu cette présence religieuse dans le cœur de la ville. Et donc le terrain Sainte-Croix, qui est donc occupé aujourd'hui par l'église Sainte-Croix et puis par le passage Sainte-Croix, appartenait à des familles qui l'ont donné à Marmoutier, donc près de Tours, donc l'abbaye de Marmoutier des Tours, qui est une abbaye bénédictine, donc fondée par Saint-Martin. Et donc, des moines bénédictins sont venus de Marmoutier habiter à partir de la fin du XIe siècle ce lieu. Ils ont toujours, ça a toujours été une petite équipe, il y a toujours eu environ une quinzaine de moines qui sont restés ici jusqu'au XVIIe siècle. Voilà. Et alors, la condition pour qu'ils viennent et que le diocèse accepte aussi la venue d'une présence monacale, c'était que l'église, enfin le terrain, appartienne au diocèse. Ce qui fait que les lieux, le bâtiment, n'ont jamais appartenu à la communauté religieuse, mais toujours au diocèse, qui a pu, en temps voulu, en faire du coup le passage Sainte-Croix. Vous voyez aussi à côté donc la prison, il y a écrit donc la prison du Bouffay. En fait, à cet emplacement-là, a été le premier château des comtes de Nantes, donc fondé par Conan le Thor en 990, avant que, à partir du XIIIe siècle, soit fondé le grand château de Nantes, à qui François II a donné ses lettres de noblesse au XVe siècle, et que vous verrez peut-être si vous vous promenez à Nantes. Et donc on est vraiment dans le quartier historique de la ville, et ça a vraiment une grande influence, puisque on est vraiment dans un patrimoine omniprésent. Alors vous voyez ici, c'est un plan qui date du XVIIe siècle, et vous avez écrit en gros logis du prieur. Et le dessin du cloître que vous voyez en fait est aujourd'hui l'actuel jardin. Donc vous avez l'actuel jardin, puis le logis du prieur, donc qui est pour nous le prieuré, qui est juste à côté de l'église. Mais à l'époque où sont arrivés les moines, en fait, il y avait seulement une petite chapelle. C'était la chapelle Saint-Martin, que vous voyez, en fait, qui est au chevet de l'église actuelle. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que le passage, entre guillemets, Sainte-Croix, les lieux du les bâtiments du prieuré, ont toujours été des lieux de vie, d'habitation, et le lieu cultuel a toujours été à côté. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on prend les plans médiévaux, on les calque sur ceux d'aujourd'hui, on a à peu près la même chose. Voici, ça c'est la façade donc de style jésuite de l'église Sainte-Croix, qui est donc un des emblèmes du quartier du Bouffay, qui donc marque aussi l'entrée du côté de la grille donc du jardin, qui est rehaussé, et ça c'est intéressant, d'un beffroi, en fait, de l'ancien beffroi de la tour du château, donc qui a été détruite au XIXe siècle, du premier château d'études de Nantes, et qui sonne du coup le carillon, puisque les habitants ne voulaient pas perdre l'utilité de ce beffroi qui sonnait les heures, qui rythmait un petit peu la vie du quartier, et donc cette horloge a été montée au-dessus de l'église et participe aussi à la vie du quartier. On est vraiment dans un territoire très très partagé. Voici les plans de coupe du passage. Donc vous voyez derrière qui apparaît en transparence l'église, puis donc le jardin, et donc un véritable passage, un lieu de déambulation. Vous traversez un bâtiment, puis une cour qui est couverte, puisqu'en fait c'est un passage couvert, avec une verrière, donc vous voyez le ciel, vous voyez le chevet de l'église, et vous terminez votre promenade par le bâtiment de la Baclerie, là où il y a les expositions, et vous arrivez dans les petites rues sinueuses de ce vieux quartier médiéval, donc du Bouffay. Voilà, une autre idée de, avec quelques pas pour vous donner un petit peu. Voilà un petit peu à quoi ressemble ce projet de vie en chair et en os, avec en plus du public. Il y a différentes photos qui parlent de différents moments au passage. Par exemple, en haut à gauche, un atelier enfant. Effectivement. Une conférence, des expositions, un concert, on utilise le lieu avec toute sa polyvalence, c'est-à-dire que le patio qui est donc ici, qui est couvert, peut servir de salle de conférence, de salle de concert, d'exposition, de simple lieu de promenade. La salle de conférence qui est juste ici peut servir elle aussi de salle d'exposition, elle sert de salles de concert aussi, on a un piano, de rencontres musicales, et puis les salles d'exposition peuvent aussi tout à fait être transformées. C'est cette idée de la transformation, de l'accueil, de pouvoir y voir toujours quelque chose de différent, une surprise finalement qui aussi crée l'attrait du passage Sainte-Croix, c'est-à-dire de se renouveler sans cesse. Et pour se renouveler sans cesse, eh bien, on travaille avec une thématique annuelle, qui est un petit peu le fil rouge de notre programmation culturelle. C'est-à-dire que toutes nos manifestations, que ce soit, encore une fois, les concerts, les conférences, les midis de Sainte-Croix, les samedis du passage dont je vous parlerai un petit peu plus tard, eh bien, tout ça est fondé sur une question, des questions. Notre ligne éditoriale à nous, finalement, notre thématique annuelle. Alors cette année, nous avons travaillé autour de l'écriture, écriture au singulier, écriture au pluriel. Et cette thématique nous a fait nous poser plusieurs questions qui rejoignent les préoccupations de nos contemporains. Comment écrit-on aujourd'hui? Je vois plusieurs d'entre vous là qui effectivement ont le papier, crayon, mais d'autres peuvent être sur ordinateur ou avec le portable aujourd'hui quand vous envoyez des textos à vos proches. Qu'est-ce que ça induit toute cette nouvelle manière de communiquer, d'entrer en communication avec l'autre? Puis l'écriture, à quoi servait-elle au départ? Comment est-ce qu'elle a été fondée? Comment est-ce que les populations des différents coins du monde l'ont appréhendée? Comment est-ce qu'elle a évolué? Et on a pu avoir de multiples partenariats. On a eu un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, par exemple, pour une exposition virtuelle qui a retracé un petit peu toute l'aventure des écritures chez tous les peuples du monde. Donc ça, c'était l'hiver dernier. Puis, on a eu la chance d'avoir, par exemple, une exposition de sculptures polychromes autour de la figure de Sainte-Anne et le livre. C'était l'idée de porter un regard original sur l'iconographie Sainte-Anne, qu'on connaît peut-être pas forcément toujours de cette manière-là, et de donner un coup de projecteur sur cette spécificité qu'a Sainte-Anne d'être souvent représentée avec un livre, et ce signifiait ce livre dans ses mains quand elle était seule, quand elle était avec Marie, ou quand elle était avec Marie et le Christ. Et ça, c'est des choses, du coup, qui nous permettent un petit peu de dérouler le fil de notre thématique. Et pour faire un grand écart, donc là on était en hiver, au printemps, on a accueilli un livre d'artiste, d'un artiste moderne, Hans Hartung, donc un des pionniers de l'art abstrait en France, qui, avec un de ses amis, auteur Jean Proal, eh bien, ont créé œuvre commune, une œuvre engagée qui s'appelait Farandole, autour des violences de la guerre, des ravages que les hommes peuvent se faire en temps de guerre. Donc en plus, il y avait une sorte d'actualité qui était aussi importante pour nous de faire résonner. Mais voici une autre manière d'illustrer la thématique de l'écriture. C'est vraiment cette idée d'être au début des questions. Mais toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaise question au passage Sainte-Croix. On est vraiment, alors on n'apporte pas forcément de réponse comme ça, brute et toute faite. On chemine plutôt avec les gens qu'on rencontre, avec les manifestations qu'on organise, pour essayer de grandir ensemble. C'est vraiment un projet de transmission. Alors j'ai effectivement beaucoup parlé de ce qui était temporaire, donc en vous montrant un petit peu les espaces du rez-de-chaussée que vous pouvez traverser. Mais il y a un élément central du projet qui est au premier étage. C'est l'exposition permanente. Elle s'appelle « Question d'homme, quel monde à venir ?». Elle est constituée de 4 espaces. La salle dite de la création, la salle dite du mal, la salle du salut, la salle dite de l'espérance. Alors déjà, vous voyez peut-être un petit peu plus dans cette thématique, finalement, où on veut en venir. Il y a vraiment cette idée de poser toutes les questions fondamentales et de les confronter à différentes grandes thématiques avec différents apports, qu'ils soient scientifiques, philosophiques, anthropologiques, religieux, donc de différentes religions. Il y a beaucoup d'interreligieux dans cette exposition. Qu'ils soient très contemporains et qu'ils puissent ou artistiques. Vraiment, c'est de faire un va-et-vient entre du texte, des images, du son, et de pouvoir essayer, lorsque le visiteur est autonome, et bien qu'il puisse approfondir une réflexion sur la grande question fondamentale. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je fais ici? Quels sont mes rapports avec les autres? Qui est l'autre? Voilà, c'est des choses qui... Alors, il faut un petit peu de temps pour tout lire, tout voir dans cette exposition qui fait vraiment tout le premier étage, donc qui fait vraiment plusieurs dizaines de mètres carrés. Et on a décidé de mettre tous les textes sur notre site internet, librement téléchargeables, pour vraiment pouvoir démultiplier les accès de lecture et l'accessibilité. Tous les samedis, des médiateurs, formés à cette exposition, bénévoles, viennent accueillir les visiteurs, répondre aux questions, guider, accueillir, encore une fois. Et un samedi par mois, il y a une visite guidée, gratuite, pour tous ceux qui le souhaitent, une visite qui permet d'approfondir tel ou tel point de l'exposition permanente. C'est vraiment le cœur du projet, puisqu'en fait, cette idée que l'Église se donne à voir autrement, elle est vraiment contenue dans le propos de cette exposition. À chaque fois, les questions sont posées, il y a les différents apports, donc je dis scientifiques, théologiques ou encore anthropologiques, mais à chaque fois est proposée la perspective chrétienne. Que disent les évangiles sur la question du mal? Que disent les évangiles sur la question du salut? Et c'est fait d'une certaine manière, avec des codes couleurs, enfin de manière très pédagogique, pour que chacun puisse en ressortir un peu plus armé, un peu plus constitué que quand il en est entré. Et cette exposition, elle est ouverte tous les jours, enfin tous nos jours d'ouverture, sur tous nos horaires d'ouverture. Donc il y a vraiment une bonne visibilité et une bonne accessibilité à cette proposition. Alors on parlait du jardin tout à l'heure, en voici quelques vues effectivement. Il reprend, et vous le voyez un petit peu sur cette photo en haut à droite, il reprend le dessin d'un cloître monastique, notamment avec la fontaine au centre. Et puis on voit encore un petit peu à gauche de la photo des arcades en fait, qui sont en arc brisé et puis qui entrent avec le langage des fenêtres hautes de l'église qui leur font face en fait. C'est vraiment on est dans le symbole, on est dans la mise en valeur d'une histoire, d'un patrimoine. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est la diversité des plantations, la diversité de ce regard qu'on peut porter sur ce jardin, qui change effectivement deux fois par an, selon notre thématique annuelle. Par exemple, si vous y promenez ces temps-ci, eh bien vous allez y découvrir des plantes utiles à l'écriture, celles qui servaient à faire des encres, le papyrus, tout un tas de plantes anciennes qu'on voit encore fleurir dans nos jardins, mais qui peuvent servir du coup à l'écriture. Donc chaque année, il y a vraiment un effort fait et un partenariat très important avec la ville pour qu'il y ait une cohérence. Et ça, c'est très important, une cohérence entre ce qui se vit à l'intérieur du passage et ce jardin, un petit peu havre de paix, au cœur d'une ville qui boue. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ce quartier, effectivement, c'est un des plus anciens quartiers de Nantes, mais c'est aussi un des plus vivants de Nantes. C'est-à-dire qu'on est entouré de bars, de crêperies, de restaurants. Ça crée... C'est intéressant parce que ça crée vraiment une diversité des publics. Des fois, on a des gens qui rentrent dans le passage parce qu'ils sont allés boire un coup au bar du coin. Et puis, ils ont vu qu'il y avait de la lumière et ils rentrent. Et ça, c'est assez formidable parce que la rencontre, elle peut se faire aussi simplement à ce moment-là par qu'est-ce qui se vit ici, qu'est-ce qui se passe ici. J'étais pas du tout venue ici pour ça. J'étais entre faire mes courses ou dans totalement autre chose et je découvre quelque chose. La découverte, elle est importante. Et puis on a planté des vignes dans ce jardin. Des vignes pour faire aussi un petit clin d'œil à nos voisins, puisqu'on a une mairie, une commune libre ici à Nantes. Alors il y en a dans plusieurs villes de France, hein, il y en a à Paris, je crois, à Lyon, enfin différents endroits. Et la commune libre du Bouffay, elle a ses vignes. Voilà, il y a toute une tradition. Donc nous, on a des vignes aussi, et puis quand la communauté du Bouffay fait ses vendanges, eh bien elle va vendanger chez nous aussi, et ça crée une animation dans le quartier, et ça crée une sorte d'événement, de bons voisins, d'ambiance du quartier. En gros, on participe vraiment à la vie du quartier. ce jardin avec donc ces 9 carrés sont vraiment donc symbolisent effectivement les jardins d'agrément ou les jardins monastiques, mais c'était aussi un ancien cimetière. Et donc vous avez quelques éléments, notamment il y a sur le fond du jardin, on a mis en valeur une ancienne tombe, et donc il y a eu des fouilles archéologiques de fait dans ce jardin. On a retrouvé des tombes de l'époque carolingienne. Donc pour vous dire qu'on est vraiment dans un ancien lieu, et ça a été aussi le cimetière de l'église juste à côté pendant très longtemps. Alors, j'ai mis quelques exemples d'expositions d'art contemporain pour vous montrer qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était essentiel dans ce projet, c'est de rejoindre les gens d'aujourd'hui. Mais pour rejoindre les gens d'aujourd'hui, il faut aussi rejoindre les créateurs, c'est-à-dire l'expression, les questionnements des créateurs aujourd'hui, ce pourquoi ils créent, comment ils créent. Et donc, il y a une programmation très importante d'art contemporain au passage en croix avec différents artistes, des artistes d'envergure nationale et internationale comme c'est le cas de Pierre Buraliso ou d'autres artistes parfois plus locaux qui font vraiment un lien très fort entre les visages du sacré, voilà comme on peut les nommer, et puis les contemporains d'aujourd'hui. On marque aussi toujours spécialement le temps précédent Pâques, parce que c'est important d'avoir un moment précis, notamment au sommet de la vie liturgique, un moment fort, par une exposition qui va être sur ces thématiques-là. Donc l'année prochaine, par exemple, on aura une exposition autour de la passion du Christ. Voilà, donc une autre exposition, donc Marc Couturier, qui est aussi un artiste de renommée internationale, vous connaissez sans doute une autre œuvre assez importante de lui. Il a réalisé dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris la grande croix en or, en fait, qui est derrière la Pietà de Cadou. Voilà. Donc là, on est... Donc, il travaille beaucoup autour des formes, il a un art très minimaliste. Mais c'est intéressant de pouvoir justement proposer des formes très différentes, que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la photo, avec des questionnements aussi très différents. Ici, c'est un photographe, donc il s'appelle Cédric Delso, qui a photographié la planète à différents moments où finalement la trace humaine est visible mais sans jamais qu'elle soit représentée sur les photos. Et donc il y a eu des photos d'architecture futuriste comme il peut y en avoir à Hong Kong ou à Shanghai, des photos de Tchernobyl, il a pu entrer dans la zone de Tchernobyl pour y prendre des photos des années après la catastrophe et donc de prendre des photos où finalement la vie humaine est encore visible, mais sans plus aucune trace de vie sur le moment. Et voilà, le questionnement dans l'exposition, c'est nous resterons sur Terre. Finalement, que fait-on de cette Terre? Que fait-on de la création? Comment est-ce que l'homme intervient sur la Terre et quelles traces il y laisse? Voilà encore une autre... Alors là, c'est lors du voyage à Nantes. On a plusieurs artistes invités qui choisissent... Là, c'était un petit peu particulier, donc Anne et Patrick Poirier, qui ont choisi dans les collections du Musée des Beaux-Arts plusieurs œuvres qui ont été exposées au passage. Donc, il y a une sorte de... C'est leur ligne éditoriale à eux, à ce moment-là. Ils ont une sorte de regard qu'ils portent sur les œuvres et qu'ils mettent en dialogue les unes par rapport aux autres. Et ils avaient, ça c'est une œuvre à eux, ils avaient installé, donc c'était il y a 2 ans, dans le patio, cet immense cône de la mémoire, avec 4 coupes de colombes à l'intérieur, Donc il faisait vraiment le lien pour nous en plus. Sur cette année, on travaillait sur entre terre et ciel, et donc bien que quoi de plus beau que ces oiseaux pour faire vraiment le lien entre la terre et le ciel. L'année où on a travaillé sur le corps, on a invité un artiste ex-bodybuilder à poser ses œuvres. Au passage Sainte-Croix. En lui posant cette question, donc c'est un homme qui a vécu des ruptures, je parle vraiment avec ce milieu du bodybuilding, et qui sa manière pour lui de s'exprimer est passée vraiment par l'art, par la photographie, par la vision qu'il avait de son corps. Et on s'est posé cette question cette année, du corps à corps. Est-ce qu'à un moment donné, on peut dans la vie s'accorder avec son corps? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que quelqu'un qui a travaillé pendant des années pour se transformer jusqu'à pratiquement laisser son corps mourir, qu'est-ce que ça dit de lui, de son être intérieur? Qu'est-ce que ça peut dire aussi d'une certaine forme de spiritualité? Évidemment, on est venu sur la question de l'incarnation, sur cette année du corps, mais aussi sur le fait de se dire, qu'est-ce que je fais de ce corps que je n'ai pas choisi, finalement, que j'habite? Et comment est-ce que je chemine avec lui? Et ça a été une année très intéressante à tout point de vue. Et Martial Charnier, c'est quand même un beau témoignage. Il a été un petit peu ébranlé par ce qu'il a vécu au passage. Comme on est une association, on n'a pas, on peut pas loger nos artistes dans les grands hôtels de Nantes, etc. Mais on a souvent la chance d'avoir de très bons rapports avec plusieurs curés du centre-ville qui accueillent nos artistes volontiers dans leur presbytère. Et Martial a été accueilli au presbytère de Notre-Dame de Toute Joie, où il a fait, il partageait son petit déjeuner avec les curés de la paroisse. Et ça l'a, ça l'a touché. Et quand on a eu des nouvelles quelques mois après, il était sur un chemin de recommençant, par exemple. Voilà. Ça porte des fruits parfois inespérés, tout simplement. Ah oui, il a été champion du monde de bodybuilding en France en 94 et champion du monde de la Californie. C'était un... Alors, je change totalement de... Mais ça vous montre bien cette diversité. C'était la même année, hein. Martial Charnier, c'était donc le bodybuilder, c'était à l'automne donc 2014, et au printemps 2015, on exposait Ferranti, empreinte du sacré, donc des photographies qui montrent des corps, soit en prière, soit dans un moment en lien avec le culte. Donc avec différents et toutes les religions. Voilà, c'est vraiment. C'était un petit peu différente. Le vernissage pour vous montrer aussi un petit peu de vie. Et puis, je vous parlais tout à l'heure d'artistes nationaux, internationaux, mais aussi des artistes locaux. Louis Ferrand est un peintre nantais. Plutôt de l'abstraction donc de l'après Seconde Guerre mondiale, et donc on a eu cette année du corps aussi, ce chemin de croix qui est dans une église dans le nord du département qu'on a pu exposer au passage pour le temps précédent Pâques. Voilà aussi une artiste locale, Fanny Alloin, qui avait habité le patio avec ses sculptures un peu comme ça en lévitation. Du patrimoine, puisqu'il y a un équilibre aussi à trouver. Alors, effectivement, on a eu une star qui est Georges de la Tour. sur une proposition du Musée des Beaux-Arts, avec qui on a de très bonnes relations, qui nous avait proposé d'exposer chez nous trois Georges de la Tour, qui ensuite devaient aller dans une exposition à Rennes. Puisque le Musée des Beaux-Arts est fermé, il est fermé depuis maintenant plusieurs années, et jusqu'à l'année prochaine, et sa directrice donc avait dit « c'est trop dommage que les tableaux ne soient visibles qu'à Rennes, il faut absolument pouvoir les faire voir à Nantes ». Et elle nous a contactés pour pouvoir les montrer au Passage Sainte-Croix. Alors on s'est empressé d'accepter, n'est-ce pas? En même temps avec beaucoup de pression, parce que vous imaginez bien que pour accueillir de telles œuvres, les conditions de sécurité sont, niveau, je sais pas, on dit niveau rouge vif. Et en même temps, ça a été un très beau challenge. On a eu effectivement plus de 17 000 personnes sur 2 mois, enfin un peu plus de 2 mois. Avec la queue dans le patio. En même temps, il y avait la folle journée. Alors, c'était sympa. Il y avait plusieurs publics. Il y en avait qui attendaient pour les rencontres musicales, d'autres qui attendaient pour rentrer dans l'exposition. Ça parlait, ça. Voilà. C'était un très beau moment. C'était juste au moment de Noël et ça a été jusqu'en février. Donc, c'était 2013-2014. Et c'était très beau. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure, donc, de Sainte-Anne et le livre. Alors là aussi, c'est des sculptures de grande valeur, puisqu'on avait quand même une sculpture du XIVe siècle, donc qui nous ont été prêtées par l'Académie de musique et d'art sacré de Sainte-Anne-d'Auray. Donc ça permettait aussi de faire un partenariat avec cette Académie du diocèse de Vannes. Et donc on avait nos deux évêques pour l'inauguration de l'exposition. C'était aussi de beaux moments en fait de partage, encore une fois. Une autre exposition dans le cadre d'un autre partenariat, cette fois-ci donc sur l'année de l'écriture, sur les icônes, un partenariat avec le château des Ducs de Nantes, puisqu'actuellement donc ils ont eux une exposition qui s'appelle Icônes Trésor de Réfugiés, et ils nous ont, enfin ce qui a été proposé, c'est que nous accueillons, donc c'était en avril, enfin mars-avril, donc quelques mois avant leur exposition, quelques icônes, donc une toute petite exposition dossier, qui montre ce qu'est la signification de l'icône, ce qu'elle représente pour les chrétiens orthodoxes. Donc ça a été très intéressant pour nous parce que il y a cette portée œcuménique aussi, donc qui est importante aux yeux du passage. Et en même temps, le château nous avait dit, nous on n'aura pas forcément le temps, l'espace de traiter vraiment toute la partie théologie. Peut-être que vous, le passage en croix, vous avez sans doute plus cette mission, ce regard très spécifique et très original à porter sur ces objets. Et donc nous, on a vraiment porté cette parole sur tous les codes en fait religieux qui sont utilisés pour écrire une icône. Puisqu'on ne parle pas d'une icône, on l'écrit. Donc c'était un petit peu le jeu de cette année d'écriture aussi. De la musique, on a énormément de musique au passage, mais voilà, musique acoustique, enfin simplement piano-voix, et puis musique électronique. On accueille un festival étudiant chaque automne, avec des groupes qui utilisent le patio comme une réelle scène, et ça aussi c'est intéressant, parce qu'on a une diversité des publics à ce moment-là. Des journées de réflexion qu'on a mené depuis 2 ans maintenant, qu'on a appelé les samedis du passage, et qui portent un petit peu les thématiques. Comme je vous disais, on se pose des questions à travers nos manifestations. Les samedis du passage contextualisent ces questions, en fait, les portent vraiment avec des invités. Et donc, c'est quelques exemples, mais sur l'année du corps, sur le corps et le mouvement, on avait un médecin du travail, on avait des professeurs de sociologie, on a eu une religieuse dominicaine sur la question de prier avec son corps. À chaque fois, sur chaque journée, on essaye d'avoir à la fois les questions d'hommes, mais en même temps toujours le point de vue spirituel. Quel regard, quel apport on peut proposer dans une démarche spirituelle. Et ben, le 30 mai, c'était toute la journée, c'était vraiment tourné autour de l'interreligieux. Voilà, donc sur l'année de l'écriture, on a eu deux journées, écrire acte d'humanité, et la dernière, vivre les romans, même lecture, avec le père Gérard Billon, que je crois que vous avez eu ce matin même, voilà, ou hier, ce matin. Donc ce matin, voilà, qui a dialogué avec Philippe Forest, qui est un auteur assez connu ici à Nantes, et donc ça a permis aussi d'apporter une belle manière de relire la Bible, vraiment, et puis de la mettre en confrontation avec d'autres lectures plus profanes. Et puis les Midi de Sainte-Croix, qui sont des animations qu'on propose une fois par semaine, le midi. Alors juste c'était le jeudi, mais l'année prochaine, ce sera le vendredi, de 12h30 à 13h30. L'idée, c'est que sur la pause déjeuner, vous pouvez venir avec un sandwich, et vous pouvez écouter de la poésie, entendre de la musique, voir un éclairage sur une exposition, écouter un café philo, écouter un café théo. Voilà, et il y a une trentaine de midis par an, ça fait autant d'interventions et de choses différentes. Voilà, chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe au passage. Et enfin, un dernier clin d'œil, cet étrange objet, c'est un des coups de projecteur de cette saison du voyage à Nantes, qui est installé dans le jardin du passage Sainte-Croix. Et je vous la montre, pourquoi ? Parce que je voulais terminer ce petit mot avant qu'on échange tous ensemble sur la poésie. On croit beaucoup au passage sur la poésie qui peut enchanter notre monde. Dans ces temps un peu difficiles, c'est clair, pour tout le monde, je crois que l'inquiétude elle est intergénérationnelle, mais on a tous besoin de poésie. Et ce qu'a proposé cet artiste, c'est de détourner un objet du quotidien et d'en faire une métamorphose, une œuvre hybride. On doit s'approcher pour voir ce que c'est, et puis finalement on s'aperçoit que c'est un aquarium et qu'il y a des poissons multicolores qui nagent à l'intérieur. Vous verriez la réaction des gens qui sont devant cette cabine et qui poussent des « waouh » et toutes les générations sont touchées. Hein. Vraiment, je dirais pas que les grands-parents poussent autant de « waouh » que les petits, mais vraiment presque. En venant tout à l'heure, j'ai renseigné une dame qui errait dans le bouchon en disant « mais où elle est cette cabine ?» Voilà, tout le monde la cherche. Elle est simplement peut-être le reflet de l'envie qu'ont les gens de s'évader. Elle s'appelle Évasion urbaine. Et on est très content que les gens puissent s'évader un petit peu, puissent toucher à autre chose, peut-être à l'invisible, à l'invisible, au passage Sainte-Croix. Voilà. Merci.
Je vous remercie énormément l'un et l'autre, étant donné que je me fais deux remarques après vous avoir entendu. D'abord, je suis nantais d'origine et j'ai appris énormément de choses de ce qui se passe au passage Sainte-Croix cet après-midi. Deuxièmement, je me dis en fait dans deux jours, ce sont les parcours. Et en fait, il va y avoir des parcours à Nantes et je sens qu'on va être assaillis, mais vraiment, on va nous demander, est-ce que sur le parcours que j'ai choisi, on va aller au passage Sainte-Croix? On essaiera de vous répondre, mais il y aura peut-être des déçus, mais vous aurez l'occasion de revenir à Nantes. Ça vous fera une occasion de revenir à Nantes. Suite à la richesse de ce que l'on a entendu, je suis sûr que dans la salle, il y a des questions, des remarques, des réactions. C'est à vous maintenant de prendre la parole. Il y a des micros à circuler.
Je peux, non ? Oui, je suis là, moi. Oui,
Oui, on vous voit.
Je ne sais plus si vous en avez parlé, et je me permets quand même la question. Le financement de ce merveilleux projet, comment ça se passe?
Alors, on peut distinguer l'investissement au départ, le fonctionnement année après année. Alors, pour ce qui est du financement au départ, c'est pas un secret d'État, je peux le dire. La dépense pour le diocèse a été de 3 500 000 euros. Étant entendu que pour ce qui est de l'investissement, la ville de Nantes a apporté une subvention au diocèse de 150 000 euros, a pris en charge l'aménagement du jardin, je le disais tout à l'heure, à hauteur de 50 000 euros. Par ailleurs, la Fondation du patrimoine nous a aidé à lancer une souscription qui a rapporté 55 000 euros, et la Fondation du patrimoine elle-même a donné 50 000 euros. Ça, c'est pour, les murs. Pour ce qui est, de l'investissement par l'association, pour ce qui est du matériel, etc., la ville a donné 200 000 euros et le conseil général, comme on disait à l'époque, a donné 50 000 euros. Donc voilà pour ce qui est de l'investissement de départ. Alors pour ce qui est du fonctionnement annuel, vous imaginez aisément que l'on ne parvient pas à équilibrer nos comptes malgré tous les efforts que l'on fait pour se procurer des ressources propres. Le parti a été pris de faire en sorte que la quasi-totalité des propositions culturelles soient gratuites. Autrement dit, ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que l'on demande une participation financière. Bon, il y a une corbeille qui est à la disposition de ceux qui veulent apporter leur contribution, mais l'essentiel de nos propositions, c'est gratuit. Alors, les ressources propres, c'est d'une part, les cotisations, j'en parle pour mémoire, c'est essentiellement, et ça commence à prendre une certaine importance, les locations de salles. Parce que, comme vous avez pu le constater, le lieu présente pas mal d'attraits. Donc, le lieu est recherché par des entreprises qui veulent organiser des petits déjeuners, des réunions, etc. La difficulté pour nous est que les locations de salles ne doivent pas se faire au détriment de notre mission. Alors, on essaie de s'organiser, de trouver des horaires pour des locations de salles qu'on recherche pour se procurer des ressources, mais qui ne soient pas préjudiciables par rapport à nos activités. Donc, location de salles. Par ailleurs, on essaie de développer, et c'est très très difficile, de développer du mécénat d'entreprise. Alors, les entreprises sont extrêmement sollicitées, et donc on commence à avoir quelques touches, mais bon, pour le moment, on ne peut pas trop compter là-dessus. Donc, la différence, c'est le diocèse. Comment ? Alors, la ville, oui, Clotilde a raison de le dire. Tous les ans, on demande une subvention à la ville, mais bon, vous savez que les temps sont durs pour les collectivités territoriales. Donc, jusqu'à il y a 2 ans, on avait 10 000 euros par an. L'année dernière et cette année, on a 8 000 euros. Par ailleurs, la région a totalement pris en charge la venue au passage Sainte-Croix d'un calligraphe chinois qui était en résidence, année d'écriture, ça tombait très bien. Donc il était en résidence au passage Sainte-Croix dans la journée. La nuit, il logeait au presbytère de la cathédrale, comme le disait Clotilde tout à l'heure. Et donc la région a totalement financé le voyage, enfin le coût de la résidence. Donc voilà, mais une fois encore, c'est le diocèse qui apporte sa contribution en nous incitant, et on fait le maximum pour ça, à faire en sorte que véritablement le déficit soit le plus réduit possible.
Oui, pouvez-vous nous dire comment vous choisissez votre thème annuel et est-ce que vous associez extérieur?
Alors effectivement, on fonctionne avec plusieurs conseils. On a tout d'abord un comité de programmation qui est une sorte de boîte à idées. Donc on débat. Alors dans ce comité de programmation, il y a des artistes, des personnes, par exemple une personne du château qui est responsable des expositions. On a 2-3 membres du conseil d'administration. On a une personne qui représente l'évêque, qui est aussi artiste en fait. Donc en plus, enfin je veux dire, il a une sensibilité très forte, donc ça entre bien en résonance avec le projet. Et donc on propose, de nos discussions découlent des propositions de thèmes, et ces thèmes on les propose au conseil d'administration qui les valide ou qui donne son avis, nous dit voilà, on cherche autre chose, ou voilà, en fait c'est des pistes de travail. Donc là on a nos thématiques pour les 3 ans à venir, jusqu'en 2019. Donc l'année prochaine on va travailler autour de l'eau, mais l'année est pratiquement faite, voilà, mais ensuite on travaillera autour de la notion d'habiter. Donc ça promet aussi de beaux moments. Et puis, donc en 2018-2019, Orient et Occident. Voilà, ça c'est ce que le conseil d'administration a validé. Et vous voyez, moi je suis déjà en train de dire, il faut qu'on propose d'autres thèmes pour travailler après, puisque pour nous, en termes de faisabilité d'exposition, on travaille à environ 1 an à l'avance. Et les artistes qu'on visite, qu'on rencontre, les partenaires, et bien tout ça prend beaucoup de temps, et on programme des artistes parfois 4 ans après avoir pensé à eux. Par exemple, Hélène Mugot, qu'on va donc exposer au moment de Pâques l'année prochaine, c'est une artiste que je connais moi depuis presque une petite dizaine d'années. Donc, mais il faut du temps, voilà. Et puis, le passage a depuis 2 ans maintenant, je crois, un conseil scientifique constitué de plusieurs personnalités qui sont là pour leur... qui représentent leur poste, enfin, les institutions. Donc, on a le monde de l'éducation. Donc, on a quelqu'un du rectorat. On a quelqu'un de la direction diocésaine de l'enseignement catholique. On a le curé de la cathédrale, enfin le recteur de la cathédrale. On a la directrice, enfin qui est partie, mais on avait la directrice du musée des Beaux-Arts, la directrice du musée d'Aubry, le conservatoire, l'université permanente, la salle basse, donc une salle de spectacle, le grand T, donc un grand théâtre. On réunit ce conseil une fois par an et on leur demande « Que pensez-vous de la programmation du passage ?» Et c'est très intéressant d'avoir leur regard très professionnel, parce que quand on parle à la directrice du musée Beaux-Arts, puis nous, nos expositions, vous voyez bien, on n'est pas quand même dans la même cour. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir cet avis, cette discussion de professionnels. Donc voilà un petit peu pour les conseils et comités qui sont autour du passage et qui nous aident dans la programmation.
D'autres questions ?
Colette, il y a un autre micro là.
Je voulais juste savoir ce qu'il en était de la fréquentation. Est-ce que vous êtes satisfait ou...
Je n'ai pas donné le chiffre, c'est un oubli de ma part. On a environ 100 000 personnes par an. Super. Voilà. Et là, j'avais les chiffres tout à l'heure, le début du voyage à Nantes. On a 12 000 personnes, on a plus de 12 000 personnes en 8 jours. Donc voilà, ça se trouve, ça va. Cette année va être... voilà.
Madame.
Elisabeth Druen, merci infiniment de votre présentation, si riche. Tout cela me rappelle beaucoup ce qui se déroule à Saint-Méry, à Paris, près de l'hôtel de ville, où le père de Chalandard avait créé il y a 40 ans le CPHB, le Centre Pastoral Al Beaubourg. Et actuellement, le responsable s'appelle le père Daniel Duigou, qui est entré dans les ordres à 52 ans, après avoir été journaliste de télévision et psychanalyste. Et donc, il y a énormément de rencontres, avec rencontres écuméniques. Récemment, la nuit sacrée a très bien fonctionné. Il fallait demander à la mairie la permission d'assurer la sécurité, donc ça a été financé par le diocèse, et leur objectif rejoint beaucoup le vôtre, donner une autre image de l'Église que le passéisme auquel les gens n'accrochent plus, et les attirer par le culturel et l'art. Bon, naturellement, il y a des concerts tous les samedis et tous les dimanches libres, mais il y a bien d'autres choses, des expositions, et après la célébration dominicale, le comité laïque qui travaille étroitement avec le clergé se réunit. Vous voyez, il y a un accueil assuré tout au long de l'année, et au mois d'août, forcément, beaucoup de gens sont en vacances, donc il y avait une soixantaine de personnes il y a quelques années. Bon, il faut jouer le jeu, même si on habite à 100 km et si l'on vient seulement une fois par mois. Mais c'est passionnant. www.saintmairie.org. Et je vous laisse à vos écrans.
Une réponse ?
Simplement, effectivement, alors avant d'avoir la chance de pouvoir diriger le passage Sainte-Croix, je travaillais au département national d'art sacré à la Conférence des évêques de France, où j'ai eu la chance de monter deux projets que vous connaissez peut-être, la revue en ligne L'Artex, donc qui est une revue d'art sacré, de patrimoine et de création contemporaine, et la Nuit des Églises. Et effectivement, au département national, on avait un regard très intéressé sur le passage Sainte-Croix, mais on a aussi énormément d'autres échos de d'autres essais et en France de ce type de projet audacieux, novateur dans leur manière de se présenter, et en même temps toujours, et c'est ça qui est intéressant, assez à l'aise avec l'identité, en fait. Voilà, c'est ce que je dis souvent, on est à l'aise avec l'identité, avec la mission qui nous est confiée par notre évêque, et en même temps, c'est une question de posture, on la porte, cette mission, au plus grand nombre. Voilà, et souvent, ça se passe plus que bien. Voilà.
On vous remercie énormément l'un et l'autre.